Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Un nouveau premier roman aujourd'hui, politiquement incorrect cette fois-ci. C'est Mathieu Falcone qui est notre invité. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Votre livre s'appelle Un bon samaritain. Vous avez droit à la collection blanche de Gallimard. Alors, je le trouve politiquement incorrect, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Oui, écoutez, c'était un peu le but, oui, de remuer un peu dans les brancards, ouais. Cette histoire.
Puisque ça parle du phénomène migratoire, hein, j'essaie de mettre un joli mot. Ça parle des migrants, même si parfois on peut se dire que cette expression de migrant est mal qualifiante.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est déjà un mot un peu galvaudé, et qui est en fait à l'origine un mot anglais, d'ailleurs. Et dans lequel, qui est devenu un mot fourre-tout, en fait. D'une certaine manière, on met un peu tout le monde et n'importe qui derrière cette appellation.
Mmh. La cohabitation avec un migrant, ça devient presque un genre littéraire.
Écoutez, je ne sais pas si...
Alors, vous aviez le livre de Benoît Cohen qui s'appelle « Mohamed, ma mère et moi ».
D'accord.
Et là, c'est un migrant qui vient vivre chez une dame très riche. Vous avez le livre d'Émilie Turquenne qui est sorti à la rentrée, qui s'appelle « Le petit prince à la tasse », mais là, l'appartement est moins grand.
Ouais.
Et puis le vôtre, alors là ils sont trois migrants qui vont vivre chez Pierre.
C'est ça, mais il me semble que le livre d'Émilie Turquheim est plus un récit autobiographique.
Oui, c'est, et de Benoît Cohen aussi, hein.
D'accord.
C'est des vrais, okay. Il raconte des vraies histoires.
Oui, alors que la mienne est inventée.
D'accord, ça s'inspire pas de faits réels.
Non, ben ça s'inspire de faits réels, si vous voulez, d'une manière lointaine, c'est-à-dire qu'on, en lisant les journaux, en observant un peu ce qui se passe, mais non, c'est totalement inventé, les personnages.
Alors c'est l'histoire de Pierre Saintonge, alors c'est pas lui qui raconte son histoire par contre, hein. Il y a un narrateur qui un soir de retour de vernissage d'une exposition au Palais de Tokyo, croise sur son chemin trois migrants, enfin il les croise... comme tous les jours d'ailleurs. Et ce soir-là, il leur demande de venir, de dormir, en tout cas manger chez lui.
C'est ça. En fait, il les croise, ces personnages, il les a déjà croisés. Il a croisé des migrants comme on peut en croiser dans Paris. Et un soir où effectivement il rentre, il est un peu ivre et sur un coup de tête et en même temps parce qu'il se dit « il fait froid, je ne peux pas les laisser dehors », il leur dit « venez chez moi ».
Il fait trop froid les gars, restez pas là, et il les entraîne chez lui.
Voilà.
Bon. Et là, s'installe une cohabitation.
C'est ça.
Comment est-ce que vous expliquez ce revirement de situation chez ce gars, chez Pierre Saintonge ?
C'est-à-dire que c'est un personnage qui, a priori, n'est pas forcément pour un accueil inconditionnel de tous les migrants, etc., qui se dit que politiquement, ça pose des problèmes. Seulement, quand il en rencontre trois en bas de chez lui, qui sont des êtres humains et qu'il voit en train de dormir dans le froid... Il se dit, humainement, je ne peux pas les laisser. Enfin, c'est un acte de charité, d'où le titre « Un bon samaritain ».
D'accord, mais il y a un revirement, parce que ces gars-là, il les croise quasiment tous les jours avec sa femme en bas de son immeuble. Et jusqu'à présent, il était beaucoup moins bon samaritain avec eux. Il les affublait de surnoms.
Oui, c'est-à-dire qu'après, c'est en fait un personnage qui s'énerve contre le politiquement correct et ces choses-là. Et contre cette espèce de sacralisation, si vous voulez, de la figure du migrant. Ça l'énerve. En revanche, quand il est face à un être humain de chair et d'os, là, il ne peut pas le laisser mourir en bas de chez lui. Et sinon, dans l'histoire, il ne les a pas rencontrés plusieurs fois. Il les a rencontrés déjà une fois, mais ce n'est pas des personnages sur lesquels il marche tous les jours, quoi, si vous voulez.
Mais ils sont en bas de chez lui. Ils sont en bas de son immeuble.
Et c'est vrai que, après, c'est ce genre d'élan qui peuvent arriver aussi quand on est un peu dans l'euphorie de l'ivresse ou de ce genre de choses, où on va se laisser aller plus facilement à un acte qui est irréfléchi, mais qui en fait reflète le fond de ce qu'il pense et de ce qu'il est réellement.
Et finalement, il est fier de... Enfin, oui, il est fier de lui.
Oui, il est fier de lui déjà parce qu'il trouve que c'est une bonne blague qu'il a faite, une espèce de côté fanfaron. Et dans le fond, il est fier aussi d'avoir fait quelque chose de beau humainement, quoi, un acte de charité.
Est-ce que c'est pour répondre à l'appel du pape François ?
Pas spécialement, parce que lui, ce qu'il dit, il critique justement les propos du pape là-dessus en disant que le pape invite tout le monde à accueillir les migrants, mais il se dit c'est ingérable, si vous voulez.
Et ce sont des choses, des propos qui sont véhiculés dans les messes, en fait.
Ce sont des propos qui sont véhiculés dans les messes. Alors Pierre Saint-Onge, c'est un personnage, disons, de culture chrétienne, qui n'est pas forcément quelqu'un de très très religieux, mais qui est quand même qui a ce fond chrétien parce que c'est un personnage assez vieille France, si vous voulez, d'une certaine manière.
Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?
Et il est professeur d'université, enfin il est professeur à l'université, professeur de littérature française.
Oui, mais qu'est-ce qu'il enseigne comme cours ?
Il enseigne, alors là, il fait un cours à ses élèves sur la littérature de la faim, la faim F-A-I-M.
D'accord, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la littérature de la faim ?
C'est-à-dire, c'est la... Comment dire comment expliquer ? Enfin, alors attendez,
C'est pas facile à expliquer, non, finalement, l'objet du cours et ce qu'il a...
C'est-à-dire que l'objet du cours, c'est que la faim est une nécessité première en l'homme. Ce qu'il s'agit tout d'abord, c'est la faim. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, il pleure, il a faim, etc. Et lui, il essaie d'expliquer ces choses-là qui sont plus ou moins philosophiques en passant par tout ce que la littérature a écrit sur ce sujet-là. Donc ça peut être, de Rimbaud à Kafka, etc. Enfin, en fait, quand on cherche, on puise dans la littérature, il y a toute une littérature qui se rapporte à cela. Et lui, ce qu'il essaie d'expliquer à ses élèves, c'est vous ne savez pas ce que c'est que la faim, puisque vous êtes tous des petits bourgeois qui vivaient dans un monde de consommation où, effectivement, on est rassasié du matin au soir. On ne sait plus ce que c'est que la faim aujourd'hui, en tout cas en France, pour la plupart des gens.
Ouais. Beaucoup de gens n'éprouvent pas la faim.
C'est ça.
Finalement, alors il rentre avec les trois migrants qu'il installe dans son qui s'installe d'eux-mêmes dans son salon. Comment est-ce qu'il justifie ça auprès de sa femme le lendemain matin, puisque le lendemain matin il faut se réveiller.
Oui, le lendemain il se réveille et c'est sa femme qui tombe sur ces trois hommes qui sont en train de dormir dans le salon, donc il vient le voir horrifié, en tout cas très étonné. Et lui, il fanfaronne un peu, il trouve ça marrant, enfin, il a l'impression d'avoir fait une bonne blague à sa femme. Et tout en se disant, je les ai hébergés pour une nuit, ils ont mangé, et puis quand ça ira mieux, ils repartiront, quoi. Mais en fait, il n'a pas réfléchi au fait que ces gens-là, qui sont à la rue, qui n'ont pas de toit, une fois qu'ils sont là, ils vont pas repartir à la rue. A priori, personne n'a envie d'aller dormir dans la rue. Et donc, c'est là qu'il va commencer à être obligé de réfléchir un petit peu à la suite.
À la suite. C'est la rencontre de deux mondes qui vont devoir apprendre à communiquer entre eux. Déjà, la première étape, c'est la barrière de la langue.
Oui, c'est ça. Parce que ce sont trois personnages qui ne parlent pas le français, qui arrivent de pays anglophones. Enfin, oui, qui ont été en tout cas colonisés par les Anglais, qui donc parlent baragouine un peu l'anglais. Et ne parle pas du tout le français, donc c'est déjà très compliqué.
Donc il y a Yahya, Jafar, donc ça c'est les deux Soudanais.
Oui.
Et puis il y a Aman qui est érythréen.
C'est ça, ouais. Exactement.
Qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours finalement ces gens ?
Alors justement, on ne sait pas très bien. Il y a une espèce de mystère là-dessus. Donc est-ce qu'ils sont passés par la Méditerranée ? Est-ce qu'ils sont plutôt passés par la Turquie ? Disons, ils ont plusieurs récits, et en même temps, je pense que ça se brouille un peu dans leur tête, dans leur esprit. Alors, soit qu'ils ne veuillent pas avouer certaines choses, soit qu'ils aient perdu aussi un peu la mémoire et la notion de certaines choses, parce que je pense que pour ces gens-là, c'est quand même quelque chose de... une épreuve conséquente et traumatisante, et il me semble qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas en parler, ou qui n'en sont pas capables, ou qui ont oublié même. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai laisser exprès un flou là-dessus.
Voilà, on peut imaginer leur parcours sans qu'on en soit tout à fait certain.
C'est ça. Mais en fait, on n'est jamais certain de ces parcours-là. Ce qui serait intéressant...
Les informations qu'ils ont, ça vient de leur fils, Alexandre, donc arrive à avoir plus d'informations.
Oui, c'est ça. Mais j'ai réfléchi à ce problème même de manière journalistique. En fait, personne ne sait vraiment comment ça se passe, ces traversées. Même ceux qui traversent la Méditerranée, personne n'a jamais embarqué sur ces bateaux, n'est passé, enfin, que je sache en tout cas. Donc on ne peut qu'imaginer ce qui pourrait éventuellement se passer, mais on n'en sait trop rien.
Est-ce qu'on sait leur destination, où ils vont ?
Alors eux, ils ont envie d'aller en Angleterre, comme beaucoup, Angleterre ou éventuellement les États-Unis, mais ça c'est peut-être pour l'étape suivante. Donc ils sont arrivés en France et ils ont essayé de passer en Angleterre, ils ont été... dans ce qu'on appelait la jungle de Calais, et refoulés plusieurs fois. Et donc, finalement, ils sont revenus à Paris. Et donc, petit à petit, ils vont se dire que, est-ce que finalement, est-ce qu'on serait pas bien en France? Est-ce que, enfin, c'est ce que Pierre Saint-Onge essaie de leur faire comprendre aussi. D'un côté, il se dit, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en France? C'est pas facile ni pour eux, ni pour nous. D'un autre côté, ils pensent que c'est encore pire s'ils essaient de passer en Angleterre, puisque je pense que les conditions d'accueil sont plus mauvaises et qu'on voit les drames que ça produit chaque jour.
Même si votre roman Un bon samaritain interroge sur la condition d'accueil des migrants en France aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Il interroge sur cet accueil, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de double langage aujourd'hui où on fait croire à ces gens-là, on leur dit qu'on va les accueillir, et en même temps, on n'est pas capable de les accueillir parce qu'on n'a pas, les structures pour. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on les accueillerait? On les accueille, il y a une espèce de cynisme derrière ça, je pense, de notre société libérale et qui a besoin de main-d'œuvre pas chère aussi, de gens qui fassent des petits boulots discrètement. Et ça nous arrange bien, finalement, de les accueillir.
Mais même si cette vague de migrants, beaucoup sont très qualifiés.
Oui, mais c'est même pas parce qu'ils sont très qualifiés qu'ils vont avoir un travail intéressant. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont qualifiés et qui n'arrivent pas à travailler. Parce que pour arriver à travailler, il faut passer des tests de langue, il faut obtenir un permis de séjour, un certain nombre de passer un certain nombre d'étapes qui ne sont pas si faciles à passer.
Mais on le voit très bien, c'est quand même sous-traité massivement aux associations aujourd'hui.
Oui.
Comme toujours.
Oui, c'est ça. Je pense que l'État se cache d'une certaine manière derrière les associations, qui leur laisse faire le travail qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il n'est pas capable de faire. Et enfin, il y a quand même, je ne sais pas, une espèce de manipulation là derrière, de la même manière que l'État va sous-traiter par exemple au Maroc ou à la Turquie, enfin, une espèce de rempart en fait. Pour empêcher les migrants d'arriver en France, en Europe.
Enfin, pour la Turquie, c'est un cadre européen quand même. Hein. C'est pas que la France. Hein.
Oui, l'Europe.
Ouais.
Mais après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des associations dans les autres pays européens. J'imagine qu'il doit y avoir un peu des choses similaires avec ces associations qu'on laisse faire.
Alors, il faut s'imaginer que subitement trois personnes viennent s'installer chez vous du jour au lendemain. Qu'il faut retrouver ses marques et que la vie va de nouveau s'installer dans votre appartement. À quoi sont confrontés Pierre et Mylène, sa femme?
Oui, alors ils sont confrontés à différentes choses. Il y a déjà cette cohabitation qui n'est pas facile dans l'espace. Ensuite, trois personnes qui arrivent, qui sont trois hommes, qui s'installent, qui ne parlent pas leur langue, qui n'ont pas forcément leurs coutumes. Pierre va essayer plus ou moins de leur enseigner le français, mais
lui, il n'y arrive pas.
Finalement,
c'est lui le prof, lui qui échoue à leur apprendre la langue française.
Parce que lui, c'est un prof, c'est un universitaire, si vous voulez. Donc, c'est un vrai métier d'apprendre le français à des débutants. C'est pas du tout la même chose que d'enseigner la littérature, si vous voulez. Et donc, il se rend compte qu'il a beau connaître sa littérature sur le bout des doigts, ça ne lui permet pas d'enseigner le béaba à ces gens-là.
Voilà, paradoxalement, son fils Alexandre, qui n'est pas prof, lui arrivera.
Son fils, il est
bien,
prof de...
bien. Alors.
Ouais, il est prof de FLE en fait dans le bouquin, c'est-à-dire de français pour les étrangers. Et donc c'est plus sa matière, c'est-à-dire l'alphabétisation, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Et ça c'est dans la réalité. Moi, ma femme est prof de FLE et je vois bien qu'elle enseigne. C'est difficile à enseigner en fait. Il y a beaucoup d'associations qui essaient d'enseigner le français à ces gens qui arrivent, qui ne parlent pas français, mais ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Quoi. C'est vraiment un vrai travail. Quoi.
Ouais. Et quelles sont les difficultés particulières, alors, finalement, à apprendre le français? C'est parce que le français est une langue difficile?
Le français est une langue difficile, et puis il faut savoir se mettre au niveau de ces gens-là qui ne parlent pas un mot de français. Quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui n'a pas, en plus, qui peut avoir une culture orale, qui, par exemple, il y en a beaucoup qui arrivent qui ne savent pas écrire. Enfin, c'est vraiment, il faut tout reprendre à la base. Et sans un peu de technique, un peu de maîtrise, il y a beaucoup de tâtonnements, quoi.
Mathieu Falcon est l'invité du Book Club. Aujourd'hui, on parle de son premier roman. Ça s'appelle « Un bon samaritain » chez Gallimard.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club a lu pour vous « Un bon samaritain ». C'est le premier roman de Mathieu Falcon qui est notre invité aux éditions Gallimard. Vous rentrez dans la grande porte, dans la famille des écrivains, finalement, Gallimard, à la collection Blanche.
Oui, oui, bien sûr.
Comment est-ce que vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé rue Sébastien Botin, vous avez tapé
Oui, oui, j'ai tapé à la porte. Non, non, j'ai envoyé mon manuscrit. Enfin, j'ai envoyé avant plusieurs manuscrits qui m'ont été refusés. Parce qu'il n'était pas bon, je pense. Tout simplement, celui-là est passé et a été accepté, validé. Donc, effectivement, je suis très content et très fier. C'est effectivement une très belle collection.
Pourtant, vous n'êtes pas tendre avec le milieu de l'art et de la littérature dans votre livre.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Je critique une forme de snobisme qui est très parisien, tout autour de l'art contemporain et de ses...
Mais voilà. De la littérature.
Et
le monde de l'édition, voilà, des éditeurs.
C'est vrai, mais visiblement, ça ne leur a pas posé trop de problèmes. Mais oui, oui, non, mais après, de toute façon, tout petit milieu est critiquable, si vous voulez. Je m'en prends un peu au milieu de l'édition et de l'art contemporain, mais si vous voulez, on peut se moquer du snobisme de chaque échelon. Par exemple, ce qu'a fait Proust très bien dans La Recherche du Temps Perdu, il fait ressortir le snobisme de chaque catégorie sociale et de chaque milieu.
Il faut relire Proust. Les sept tomes. Hein.
Oui, c'est ça.
Non, parce que tout le monde n'a pas lu les sept tomes de Proust. Hein.
J'avoue, moi j'y suis arrivé une fois.
Bien. Mais vous êtes édité chez Gallimard aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça veut dire que vous allez devenir un écrivain avec pignon sur rue?
Pignon sur rue, écoutez, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est encourageant et ça me pousse à continuer à écrire. Et écoutez, j'espère que ça va se développer, que je vais être capable d'écrire d'autres romans encore meilleurs que celui-là et de continuer, mais... Ça ne laisse pas présager du futur, on ne sait pas.
C'est le premier.
C'est le premier, voilà.
En tout cas, Un bon samaritain, c'est l'histoire donc d'un prof, Pierre, ce qu'on pourra sous-titrer ou appeler l'affaire Saint-Onge. C'est l'histoire d'un prof de littérature qui accueille un soir trois migrants dans son salon avec sa femme Mylène. Donc pourquoi c'est pas lui qui parle directement? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire raconter cette histoire par un de ses amis?
Oui, j'ai choisi de faire ça, c'est-à-dire d'avoir un narrateur extérieur parce que je trouvais que c'était plus drôle, ça donnait plus de relief au récit. À l'origine, je l'avais écrit, c'était Pierre Saint-Onge qui racontait l'histoire et je trouvais que ça fonctionnait pas bien, ça manquait d'humour. Et donc, le fait d'avoir un narrateur extérieur, ça permet de critiquer, de moquer un peu Pierre Saint-Onge dans son outrance et ses excès et son caractère de cochon d'une certaine manière. Et de raconter les faits. En même temps, ça laisse planer un petit doute. Par moment, on ne sait pas exactement si ce qu'il raconte, ce que raconte le narrateur est véridique. Peut-être qu'il grossit aussi. Enfin, je trouve que ça permet des effets comiques.
Ouais, plus de distance, finalement.
Plus de distance, oui. On est moins dans le drame pesant, si vous voulez. Ça permet une légèreté.
Alors, ces trois migrants dans un salon, ça ramène le couple que forment Pierre et Mylène finalement à leur identité, à ce qu'ils sont.
Oui. À leur identité, effectivement, de couple et à leur...
À leur identité française et à leur identité de couple, ouais.
C'est ça. Et à leur différence et à confronter leur point de vue qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais finalement, je pense que comme c'est un couple dans lequel il y a vraiment de l'amour, ils s'en sortent malgré les difficultés et malgré leurs opinions divergentes et totalement divergentes sur certains sujets, ouais.
C'est-à-dire, par exemple...
C'est-à-dire que, a priori, sa femme Mylène est beaucoup plus pour un accueil des migrants, alors que Pierre Saint-Onge, non, ça l'énerve un peu parce que il trouve que ça met en danger sa culture. Il est très attaché à la culture et à la civilisation française, européenne. Elle est beaucoup plus libérale et, disons, d'une certaine manière, je m'en foutiste là-dessus. C'est-à-dire que, après, c'est son côté féminin aussi. Disons, voilà, on avance et on regarde vers le futur, alors que c'est vrai que. Les hommes ont peut-être parfois plus tendance à s'accrocher à leur passé.
Vous dites de Pierre Saint-Onge que c'est un homme qui ne veut pas assumer son époque. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ne veut pas assumer son époque?
Oui, c'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a tellement de choses critiquables dans l'époque dans laquelle il vit qu'il n'a pas envie d'être jugé, d'être jugé lui pour les erreurs de son époque. Il trouve qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est une époque totalement excessive dans... Les outrances du capitalisme, de la société de consommation, de hypermédiatique, tout un tas de choses.
Même si lui est très confortablement installé.
Ah oui, non, mais lui, il est installé, c'est un voilà. bourgeois. Oui, bien sûr, ça va pour lui. Mais il critique surtout une espèce de société hyper matérialiste où on laisse beaucoup moins de place à l'esprit, à l'imagination. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup plus aux choses apparentes, matérielles, d'où aussi la critique du snobisme de l'art contemporain, qui est une espèce de mascarade sans rien derrière, quelque chose de vain, qui n'est que de la représentation en fait.
C'est pas son truc.
C'est pas son truc, c'est-à-dire qu'il est intéressé par une certaine forme d'art contemporain, mais pas par cet art officiel qui peut s'exposer au Palais de Tokyo ou ailleurs. En mettant en avant souvent des gens qui n'ont rien à nous apporter, qui sont même comiques. En fait.
Je vous propose d'écouter Gabriel Fauré. Alors, c'est pas tous les jours qu'on l'écoute sur Beurre FM, parce que Falcon, c'est vous. Saint-Onge écoute beaucoup de musique classique, finalement. Oui. Il écoute Fauré. J'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui alors, une chanson qui s'appelle Les Jeans, et c'est inspiré d'un poème de Victor Hugo.
Magnifique.
Les Jeans, donc, sur Beurre FM. Un bon samaritain, c'est le titre du roman de Mathieu Falcon. C'est son premier roman chez Gallimard. C'est votre vrai nom, Mathieu Falcon, ou c'est un pseudo ?
Non, c'est un pseudonyme.
Vous appelez comment, en vrai ? Parce que je trouvais que c'était un bon pseudo. Vous voyez, oui, comme je l'ai vu nulle part, c'était un pseudo. Je me dis, tiens, c'est parfait pour un bandit corse.
Pour un bandit corse, exactement. Ben, je me suis inspiré de cette histoire de...
De Matthew Falcon.
De Matteo Falcon, de ouais. Prosper Mérimée, oui. Que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Et qui est une histoire assez, assez dure, mais très parlante. Une question d'honneur, corse.
Mmh. Pourquoi écrire un livre, finalement, et quand on a les honneurs de la collection blanche de Gallimard avec un pseudo ?
Oh, écoutez, pourquoi ? Parce
que vous ne voulez pas laisser une trace avec votre vrai nom dans la littérature, ou ça vous couvre, ou vous avez une autre activité dans la vie
Non, 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 peu importe. Enfin, finalement, qu'est-ce que... Ça a une importance assez secondaire, le nom qu'on va laisser... Si vous voulez, de toute façon, pour peu qu'on laisse une trace, la trace me survivra et moi je ne serai plus là pour le voir. Donc finalement, c'est assez secondaire. Si vous voulez, par exemple, au Moyen-Âge, les gens ne signaient pas. Ils ont construit des cathédrales, écrit des poèmes magnifiques, etc. Et on ne savait pas qui écrivait. Et ça n'en est pas moins beau pour autant. Donc c'est secondaire à mon sens.
Si j'avais su que c'était un pseudo, je me serais renseigné sur votre identité, tiens. Mathieu, c'est votre vrai prénom ?
Mathieu, c'est mon prénom, oui.
Ah, ben voilà, oui. Déjà, on avance, on a déjà la moitié. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, finalement ? Pourquoi est-ce qu'il les accueille, ces trois migrants, dans son salon ? Est-ce que c'est par altruisme ? C'est quoi ? C'est de la piété ?
Je dirais que c'est de la charité.
C'est de la dévotion.
Oui, d'où le titre, un bon samaritain, c'est pour qu'il rappelle ce passage dans l'Évangile, cette parabole, où... Un homme est laissé pour mort parce qu'il était détroussé par des bandits et dans un fossé, et donc tous ses coreligionnaires passent devant lui et ne s'arrêtent pas et détournent la tête jusqu'au moment où un samaritain passe et le ramasse, alors que a priori le samaritain ne se mêle pas aux juifs, etc. Mais peu importe. Donc c'est ce qu'on appelle ce que je pourrais appeler de la charité chrétienne, mais qui est en fait un élan du cœur profond. Devant la détresse ou la souffrance de son prochain, on se baisse et on lui tend la main.
Est-ce que c'est une valeur d'aujourd'hui, la charité ?
Je pense qu'aujourd'hui, cette valeur, enfin la charité a été d'une certaine manière dévoyée en humanitarisme, ces choses-là, tous ces bons sentiments qu'on fait, que certaines personnes, font par réelle bonté de cœur. Mais d'autres aussi agissent un peu pour pouvoir se montrer d'une manière un peu comme des pharisiens. Quoi, si
voilà, à un moment donné, il dit les bons sentiments expriment le contraire de leurs intentions.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une société pleine de bons sentiments. Ça qui, à mon avis, est beaucoup importé aussi de la société américaine, etc. Enfin, vous voyez tous ces grands patrons qui font des donations. Alors voilà, on donne pour des grandes causes, effectivement, mais bon, qu'est-ce que...
Aux États-Unis, c'est une ligne sur le CV. C'est presque aussi important que le métier que vous faites, il faut savoir. C'est que cette partie-là, elle est fondamentale.
Oui, c'est ça. C'est de l'hypocrisie, si vous voulez.
C'est regarder combien je suis bon et généreux.
Voilà. Mais ça, c'est aussi une manière je pense que le protestantisme met beaucoup ça en avant, enfin, notamment aux États-Unis. Si vous gagnez de l'argent, c'est que vous êtes béni de Dieu. Donc si vous en redistribuez, vous êtes encore meilleur, etc. Mais vous en gardez quand même la plus grosse part pour vous. Et ça permet de se faire mousser, enfin, de se faire de la pub finalement.
Un personnage de femme, Manon, qu'est-ce qu'elle incarne ?
Alors Manon, elle incarne un personnage féminin un peu pour le dire caricaturalement, sans colonne vertébrale, c'est-à-dire une fille qui aimerait bien...
Elle part dans tous les sens. Hein.
Voilà. Ouais. Qui aimerait bien faire du bien, faire le bien, mais qui se trompe souvent de chemin et qui va trop loin, qui va être capable de se donner à des hommes par
elle mélange
par
tout, pitié. Finalement.
Elle mélange tout, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas où sont ses limites, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'elle a un problème d'éducation, un problème de... un problème qui est... dans notre société aussi, on ne sait pas... On ne met plus de limites, donc on ne sait plus jusqu'où on peut aller.
Et on ne sait pas où est sa place finalement.
C'est ça, exactement.
Un bon samaritain, donc Mathieu Falcon, c'est le titre de votre premier roman. Merci d'être venu nous en parler ce matin et c'est aux éditions Gallimard.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Le Book Club revient dans un instant. midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Je vous rappelle que le week-end prochain a lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, le deuxième Maghreb Orient des Livres, qu'on appelait avant le Maghreb des Livres, hein, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Les littératures du Maghreb et du Moyen-Orient vous donnent rendez-vous dans un des plus beaux palais de la capitale, la mairie de Paris. Alors c'est l'occasion pour ceux qui aiment lire de rencontrer des auteurs et de se faire dédicacer leurs livres, profitez-en. Le Maghreb Orient des Livres, ce sont également 130 auteurs prévus cette année, des dédicaces, des rencontres avec carte blanche, des lectures, des entretiens, des cafés littéraires et des tables rondes. À noter que samedi à 16h, une lecture d'extrait du Fils du pauvre de Mouloud Feraoun, qu'un sondage donnait comme l'un des livres préférés des Algériens. Donc notez bien, ça c'est samedi à 16h, et que quelques minutes plus tard, à 16h45, sera remis le prix Beurre FM. Alors vous savez, ce prix Beurre FM récompense tous les ans le roman que nous avons préféré, et vous pourrez vivre l'événement en direct sur notre antenne, donc 16h45 en direct sur Beurre FM. Vous retrouvez le programme hein, d'ailleurs du Maghreb Orient des Livres sur leur Facebook, donc vous avez toutes les venues d'auteurs, et vous verrez, il y a vraiment des auteurs très sympas. Donc, allez sur leur Facebook. Alors, les ouvrages que nous avons sélectionnés cette année. Le premier, c'est Millennium Blues, le nouveau et cinquième roman de Faye Zaghen aux éditions Fayard. Je vous rappelle que Faye Zaghen a 19 ans quand elle publie Kif Kif Demain, énorme succès public, presque 400 000 exemplaires vendus, traduits dans 26 langues. Et ça a été l'une des meilleures ventes de l'année 2004. Faye Zaghen, c'est la bonne copine dont on attend des nouvelles avec impatience. Et Millennium Blues, qui est le titre de son livre, fait référence au forfait Millennium, qui est sorti au début des années 2000 et qui permettait de parler de manière illimitée pour la première fois. C'est l'histoire de Zouzou qui, du début des années 90 à nos jours, promène sur son époque ce regard d'enfant, d'adolescente, puis de jeune femme et enfin de mère. Tout cela dans un désordre ou presque. On suit par épisode, par âge, le parcours tourmenté de ce personnage qui est le reflet de la génération, cette génération Faye Zaghen, bousculée par l'arrivée de ce nouveau millénaire. Chaque épisode fait référence à des épisodes de notre vie. Hein. Vous retrouvez la Coupe du Monde 98, le 11 septembre 2001, le second tour de l'élection présidentielle de 2002, ou encore la grippe A, avec beaucoup de dynamisme. Donc c'est un bon cru, et c'est donc Millennium Blues de Faye Zaghen. Alors, deuxième livre que le jury du prix littéraire de Beurre FM a retenu cette année, s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval, aux éditions Gallimard, de Myriam Alaoui. C'est un premier roman, et l'histoire dit que Myriam Alaoui a envoyé son manuscrit à plein de maisons d'édition, et que 5 ans après, bien, elle a vu son livre publié. La bouche de cheval, c'est le surnom qu'elle donne que donne Jmia, qui est son héroïne, à une réalisatrice de cinéma qui s'intéresse à elle. Pour moi, c'est un roman ovni hein, qui se déroule dans les années 2010. Jmia est prostituée à Casablanca, elle a 34 ans, elle vit avec sa fille. C'est une femme au fort caractère et à l'esprit vif. Elle n'a pas la langue dans sa poche, hein, vous pourrez constater. Pour décrire le monde qui l'entoure, son amoureux, Shaïba, qui est gros, qu'elle décrit, c'est à mourir de rire. C'est une brute épaisse, c'est sans parole, ou Alima, sa compagne dépressive, qui lit le courant entre deux clients, puis encore Moui, sa mère à la moralité implacable, qui semble tout ignorer de l'activité de sa fille. Et puis, un jour, arrive une jeune femme, elle s'appelle Chaldia, dite bouche de cheval, et elle veut réaliser son premier film sur la vie de Cartier et de Casablanca, et elle cherche une actrice, et donc la suite du livre, je ne veux pas vous la raconter, mais en tout cas, Jmia raconte en détail les anecdotes de sa vie quotidienne, ses rapports avec les autres prostituées, son souteneur, ses clients ou ses voisins. Dans un langage très particulier, c'est très imagé, c'est cru, c'est direct, parsemé de mots et d'expressions en arabe. Peut-être pour ça qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. Et puis, cette femme est attachante puisqu'elle refuse d'être une victime. Elle a un tempérament fort en gueule. C'est un roman qui se mérite dans ce sens que ça prend du temps pour entrer dedans. Et il faut laisser passer presque la moitié du livre pour se l'approprier. Et moi, je l'ai tellement aimé ce roman qu'à la fin, moi, je voulais connaître la suite des aventures de Jmia. À noter que le livre fait actuellement l'objet d'une adaptation au cinéma par son auteur. Le troisième livre que nous avons sélectionné aujourd'hui, c'est « La guerre est une ruse » de Frédéric Pollin. C'est le premier tome d'une trilogie, donc comme son nom l'indique, qui en comporte trois. Le titre fait référence à une phrase qui a été prononcée par Mohamed Merah aux policiers. Frédéric Pollin a déjà une dizaine de romans noirs à son actif et revendique clairement et fièrement d'être un écrivain engagé. Donc il se penche pour la première fois en Algérie, qu'il ne connaît pas, il n'y a jamais mis les pieds d'ailleurs. La guerre est une ruse nous plonge dans la décennie noire de l'Algérie, qui a été assez peu explorée par les romanciers aujourd'hui, au moment où les islamistes du GIA gagnent du terrain dans le pays. Donc c'est l'Algérie de 1992, une poignée de généraux qu'on appelle les janviéristes ont pris le pouvoir, l'état d'urgence est déclaré, les islamistes pourchassés ont pris les armes, le pays sombre dans une violence sans précédent et Tedj Ben Lazar, qui est un agent du DSE, suit de près les agissements du tout-puissant service de renseignement militaire algérien, le DRS, qui tire dans l'ombre toutes sortes de ficelles. Donc ça se lit vraiment comme un polar. Ça s'appelle « La guerre est une ruse » et on attend les autres, mais je sais que pour le deuxième tome, par exemple, Frédéric Pollin va quitter l'Algérie. Quatrième livre de cette sélection 2019, « Tu n'habiteras jamais Paris » d'Omar Benalla chez Flammarion. Un livre qui résume l'itinéraire du père de l'auteur qui s'appelle Bouzid, et qui est décédé juste avant la sortie du livre. Avec ce livre, Omar Benalla renoue avec la part algérienne de son identité, qu'il a reconstituée, puisqu'il avait arrêté d'aller en Algérie. Il s'est même plongé dans quelques ouvrages du 19e siècle, et grâce à une thèse d'Alain Corbin, il a découvert le peuple de la France rurale du 19e siècle. C'est un livre touchant. Je vous en lis le pitch. Un jour, Omar décide d'enregistrer les souvenirs de Bouzid, le fils et le père, l'écrivain et le maçon. C'est dans leur langue mêlée que l'on reconstruit le parcours de l'autre, celui d'un homme drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 63. Bientôt, un troisième personnage s'invite dans le récit, c'est Martin Nadeau. Lui est né en 1815 dans la Creuse. Comme Bouzid, il a choisi l'exil et a trouvé sa place dans l'Est parisien. Lui aussi est maçon, devenu l'un des rares députés ouvriers. Lui aussi s'est posé des questions de l'injustice sociale, de l'instruction des plus pauvres. Trois autodidactes donc s'épaulent dans la voie de la connaissance pour tracer une autre histoire de France. C'est des parcours qui te croisent. Et puis, tu n'habiteras jamais Paris, ça fait référence à une phrase qu'une assistante sociale avait prononcée au père de Omar Benalla. Très, 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 très bon roman. Cinquième sélectionné de l'année, c'est Indigène de la Nation, aux éditions Don Quichotte. C'est le roman autobiographique ou une autobiographie romanesque de l'acteur Slimane Dazy. Alors c'est le livre d'un homme en colère à l'approche de la soixantaine, l'acteur qui a commencé sa carrière assez tard, à 40 ans, dans le film Rengaine de Rachid Djaidani et qui a été révélé par le film Un prophète de Jacques Audiard, est victime d'une crise cardiaque, événement qu'il raconte dans son livre et qui l'incite certainement à s'interroger sur le chemin parcouru et à écrire son histoire. Donc Dazy raconte avec colère et tristesse comment son passeport algérien entrave ses déplacements professionnels ou comment, par exemple, l'état d'urgence a encore plus compliqué sa vie. Notamment, en tant que comédien, il est souvent invité à des festivals, à des invitations ou même à des remises de prix. Et il y a une scène où on voit que clairement, il a raté le début d'un tournage d'une série américaine à cause d'un contrôle qui a mal tourné. Je vous dis le pitch du livre. Je suis à un tournant, comme souvent, j'ai 56 ans, écrit Dazy, et j'attends la sortie d'un film dans lequel je me suis investi comme jamais. J'y joue le rôle de ma vie, le rôle que j'ai tenu toute ma vie, le rôle du grand frère, puisque c'est vrai que c'est vraiment la figure du grand frère, le rôle de l'aîné qui défriche le chemin, l'aîné qui veille et surveille. Je suis Areski, parisien d'origine algérienne et parisien dans le sang. Je suis propriétaire d'un bar à Pigalle, j'ai la gueule de l'emploi, une tête de parigot bien cassée, un mec des banlieues métissées qui vient gonfler le cœur de la ville. Je suis un vrai Parisien, une figure des quartiers populaires. Je suis l'un des derniers Parisiens. Voilà, le ton est donné. C'est cette écriture de Dazy, peut-être lui, qui sera le nouveau prix Beurre FM 2019. Et puis le dernier livre, Alors, il sonne un petit peu comme un ovni. Ça s'appelle « Le syndrome de l'accent étranger » aux éditions Publishroom de Mariam Chikfared. Alors, il faut savoir que le syndrome de l'accent étranger, en anglais, le « foreign accent syndrome », qu'on appelle aussi le FAS, hein, est une vraie maladie, c'est une infection médicale. On recense 150 cas à travers le monde. C'est une infection médicale qui est vraiment très rare. Et elle peut toucher des personnes qui ont été victimes de lésions cérébrales ou alors qui ont eu un choc, un accident. Et à leur réveil, eh bien, certaines d'entre elles se découvrent en train de parler avec l'accent d'un pays dans lequel elles ne sont jamais allées. Donc voilà ce que c'est que le syndrome de l'accent étranger. Et un soir, par hasard, je vous raconte l'histoire du livre, hein, dans le métro, un homme trouve un ordinateur oublié. Lorsqu'il l'ouvre enfin, il allume l'ordinateur, il trouve des informations sur son propriétaire et il découvre le début d'une histoire. Et il commence à lire le livre. Et malheureusement, cette histoire n'est pas terminée. Donc, il se met en quête de retrouver le possesseur de ce cartable. Voilà, et je ne vous raconterai pas l'histoire du livre. Donc, ce sont les six lauréats qui seront départagés. Donc, c'est samedi prochain, donc à 16h45, que vous serez qui succédera à Kauter Adimi, qui était lauréate en 2018 pour son livre « Nos richesses » aux éditions du Seuil. On va se quitter avec de la musique. Je vous parlais tout à l'heure de ce personnage de prostituée à Casablanca. Et elle s'identifie à Najet Attabou, qu'elle écoute tout le temps. C'est son idole. Et je vous propose d'écouter. Très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.